Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Dans notre article 2 du catéchisme, nous allons arriver à ce titre de Christ, mais je souhaiterais rebondir sur ce que nous disions dans la dernière rencontre qui m'a beaucoup frappé, l'importance du nom de Jésus. Je me disais, il y a quelque chose de très révolutionnaire presque à mettre en avant ce nom de Jésus, dont tu disais qu'il a eu d'importance. On a dit que c'était un peu le programme de salut de Dieu, mais je me disais un peu naïvement, au fond, ne pas diffuser, ne pas connaître, ne pas faire connaître le nom de Jésus, finalement, a une certaine gravité. Il y a un vrai manque derrière ça. Le nom de Jésus est fait pour être dit et dit à bon escient, bien communiqué. D'une certaine façon, je comprends mieux aujourd'hui que pour certains, même dans des milieux catholiques qui voudraient respecter la laïcité ou bien respecter les autres dans leur foi ou leur non-foi, disent c'est du prosélytisme, sachant que nous avons dit dans une autre rencontre que le mot prosélytisme n'est pas en soi mauvais. Il y a un prosélytisme de bon aloi, disais-tu, en te référant d'ailleurs à un arrêté de la Cour de la Commission des droits de l'homme. Bref, le nom de Jésus a été diffusé après la venue du Fils de Dieu sur notre humanité. Paradoxalement, aujourd'hui, le nom de Jésus est très inconnu par bon nombre de gens, alors que nous avons les moyens de communication dont nous sommes souvent assez fiers de dire on peut communiquer avec la terre entière, et finalement le nom de Jésus, nous avons l'impression qu'il est moins connu, il est moins l'esprit des gens et sur la bouche. Et finalement, il y a une sorte de régression. Nous sommes en étape de première évangélisation parce que le nom de Jésus n'est pas connu, parce que Dieu ne dit plus rien à un grand nombre de gens. C'est assez paradoxal, finalement.
Oui, c'est triste, cette espèce de rétrécissement, l'abandon des crucifix dans des lieux publics, chemin dans lequel il y avait des crucifix qui étaient au long des routes ou d'autres signes chrétiens qui disparaissent. C'est dommage parce que finalement c'est ce nom qui n'est plus magnifié comme Dieu nous l'a demandé de le faire. Donc nous écartons de cette parole que nous avions évoquée la dernière fois. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et ça, si nous perdons cela, nous perdons notre élan d'évangélisation. C'est pour cela qu'il faut être prudent dans ces enceintes de dialogue dans lesquelles on aimerait un commun dénominateur passe-partout, mais qui finalement devient un peu fadasse, comme si on arrivait à faire une nourriture qui aurait un goût valable pour tous les hommes. Ça finit par faire une bouillie informe et sans saveur, sans odeur, sans couleur. Et nous risquons de perdre notre capacité d'évangélisation, alors que ce nom de Jésus, d'emblée, a eu une résonance très forte. Hein, quand on pense que ce que dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 9, 10, saint Paul, c'est le nom de Jésus qui manifeste en plénitude la puissance suprême du nom au-dessus de tout nom, c'est-à-dire le nom même de Dieu. Donc il y a une connexion entre ce nom de Dieu et la révélation de Jésus, et réciproquement. Les esprits mauvais craignent le nom de Jésus, et les disciples font des miracles au nom de Jésus. Quand Pierre ressuscite le boiteux de la belle porte à Jérusalem, il le dit au nom de Jésus, je te donne l'ordre de te lever et de marcher. Et cela marche, cela fonctionne. Il y a dans le nom de Jésus la possibilité d'une réconciliation. C'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde entier, affirme saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Ce nom si puissant est le vecteur du christianisme. Ce n'est pas nous qui nous annonçons, mais nous annonçons Jésus. Et Pierre et Jean, devant le Sanhédrin, ont le sentiment d'être parfaitement dans leur mission en annonçant ce nom.
Alors, Jésus est un nom. Nous avons bien montré l'importance de cela et bien l'importance de ce nom. Mais Christ, est-ce que c'est un titre? Est-ce que c'est un nom? Alors le catéchisme ici dit ceci. Alors le mot Christ signifie le Messie. Ça vient de la traduction grecque du terme hébreu Messie, loin, celui qui a reçu l'onction. Il ne devient le nom propre de Jésus, dit le catéchisme, que parce que celui-ci accomplit parfaitement la mission divine qu'il signifie. Un nom, un titre, comment... C'est vrai que nous disons Jésus-Christ comme si c'était le prénom et le nom.
Il y a il y a un côté un peu facile, comme on dit Jacques Dupont, on dirait oui. Jésus-Christ comme si c'était son nom de famille. Évidemment, très tôt, quand on fait le catéchisme, je me souviens du vieux prêtre qui nous expliquait ça, attention, Jésus-Christ, c'est pas comme vous, Édouard Ivry, ou comme vous, Philippe Jaillot. Il s'agit de deux noms qui ont une signification, l'un qui est le nom qui a été donné à l'origine par les parents Marie et Joseph à l'enfant qu'il a porté à la synagogue, qu'il a porté petit, qu'il portera jusqu'à la fin des siècles, et puis Christ qui annonce sa mission ternaire qui caractérisait les Moïse, par exemple, qui était à la fois le chef qui ordonne à Aaron pour être grand prêtre et puis qui parle au nom de Dieu comme un prophète. Et ces trois charges faisaient que dans l'Ancien Testament, les hommes qui recevaient ces charges de roi, de prêtre et de prophète recevaient l'onction. Les rois très nettement, les prêtres aussi. Les prophètes, on le voit en particulier pour Élisée le prophète qui reçoit l'onction d'Élie. Et cette triple charge marque bien le concret de la mission de Jésus. Jésus n'est pas envoyé dans une forme abstraite qui serait marquée par une sorte de fiction ou de mirage. Il y a en Jésus une incarnation dans un peuple dans lequel il s'inscrit comme roi, prêtre et prophète. Et ces trois charges forme finalement la figure du Messie dans son absolu, dans sa réalisation la plus profonde, puisque nous savons bien que quand on utilise un nom, parfois on peut l'utiliser avec une portée maximum quand on sent qu'elle est la mieux réalisée possible. Et c'est le cas pour le mot Christ qui convient si bien à Jésus. Il est loin par excellence. Et nous avons une très belle expression de saint Irénée de Lyon, numéro 438, qui dit « C'est ce qu'indique son nom lui-même, car dans le nom de Christ est sous-entendu celui qui a oint, celui qui a été oint, et l'onction même dont il a été oint. » Celui qui a oint, c'est le Père. Celui qui a été oint, c'est le Fils. Et il l'a été dans l'Esprit qui est l'onction. Donc il y a comme un déploiement du mystère trinitaire dans ce mot Christ. C'est ça qui est très beau. Hein. C'est-à-dire que oui. Les relations trinitaires sont comme sous-entendues et qui montrent bien la provenance, de l'origine de celui qui vient d'un ailleurs, et qui est loin parfait. Il y a une sorte de maximum par rapport à ce qui était attendu dans l'Ancien Testament, qui espérait un Messie, mais on ne savait pas trop quelle forme il aurait. Et avec Jésus, c'est mieux que tout ce qu'on pouvait attendre, puisque c'est la révélation, finalement, du mystère trinitaire.
Effectivement, cette citation de saint Irénée est assez extraordinaire. Elle a beaucoup de souffle, hein, si je puis
oui,
dire.
Oui, oui, c'est dans le Contrat Hérésès, livre 3, 18.3. C'est un très, très beau passage. Et saint Augustin, visiblement, là, on en a entendu parler, parce qu'il reprend lui aussi la même trinité, finalement, qui se manifeste à travers le mot « onction », puisque « Christus », ça veut dire « loin », et Amashiar, hein, qui était le mot hébreu, veut dire aussi celui qui a reçu l'onction. Donc on sent bien qu'il y a une continuité de l'Ancien au Nouveau Testament, mais avec un dépassement, puisque c'est le mystère trinitaire lui-même qui se révèle à travers ces mots et qui font comprendre quelle est l'identité profonde de celui qui est venu loin du Père. Le béni du Père, aussi on peut l'appeler.
Mais porter ce titre de Messie au temps même de Jésus n'était pas si simple que ça. Je veux dire, des Messies, il y en avait beaucoup qui se proclamaient Messie. Et en même temps, quelle était l'attente du peuple
oui,
par rapport au Messie ?
Il y avait certainement une ambiguïté, parce qu'on imaginait un petit peu comme pour Moïse, un Messie qui serait un libérateur. Et dans le fond, le peuple juif avait connu plusieurs libérations. La libération du pays de servitude en Égypte, la libération de l'exil en Babylonie. Et donc là, il y avait un nouveau cas où il se sentait prisonnier, finalement, de la conquête, après la conquête grecque, la conquête romaine. Et donc, on pouvait espérer un libérateur, mais un libérateur temporel. Et d'ailleurs, dans les disciples de Jésus, certains, visiblement, ont l'air d'y tenir, puisqu'il y a le fameux Zélote qui est parmi eux. Et c'est clair que Jésus a été très discret par rapport à cela, et il a préféré se faire appeler fils de l'homme, ou on pourra reprendre ça une autre fois, mais il a accepté avec discrétion ce type de Messie. Par exemple, il le fait à la Samaritaine en Jean 4, 25, ou encore en Jean 11, 27, quand il guérit le paralytique, où il lui dit finalement « oui, c'est bien moi le Messie ». Mais il le fait à petite dose homéopathique pour pas que le nom soit dévié de sa véritable signification que lui veut donner dans sa mission.